BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles. On va parler sport dans quelques minutes. Nous allons parler de l'intérêt qu'il y a peut-être à investir dans le secteur du sport. On sera avec l'équipe de Montpensier Finance parce que les retombées économiques des Jeux Olympiques pour la France sont estimées à 6 milliards d'euros. Donc comment investir et sur quel segment miser pour bien surfer cette vague sport, évidemment avec les Jeux Olympiques, mais aussi l'euro, pas loin de chez nous, en Allemagne. C'est trop programme de tout pour investir dans une quinzaine de minutes. Mais avant ça, on va s'occuper d'un sujet non moins réjouissant, vos impôts. La corvée de la déclaration a commencé. Ça vous concerne si vous êtes bien soumis à l'impôt. Et heureusement, pour répondre à vos questions, ma consoeur Marie-Christine Sonquin des Échos est avec nous. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Lorraine.
Marie-Christine aux manettes de l'équipe patrimoine des Échos. Je vous précise que nous allons faire une petite séquence spéciale impôt. C'est maintenant tout de suite dans vos oreilles, dans quelques minutes en podcast et en replay. Et ce sera surtout vendredi, en kiosque, physique ou digital, dans vos Échos. Déjà, Marie-Christine, avant de commencer cette corvée des impôts 2024, enfin 2023 du coup plutôt. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?
Alors, on ne peut pas dire que ce soit la révolution cette année. Hein. Ce n'est pas vraiment l'année du...
Rapprochez-vous un peu du micro, Marie-Christine, qu'on entende bien.
Oui, je me rapproche un peu du micro. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas l'année du grand soir fiscal de 2024. Vous n'allez pas trouver de très grosses innovations sur votre feuille d'impôt.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un petit peu de stabilité, si je puis dire.
Oui, comme ça, on s'y retrouve. On n'a pas besoin de refaire tous ces calculs. Il y a un peu de stabilité. Alors, néanmoins, il y a des choses quand même qui sont nouvelles et qu'on peut noter, je pense qu'on l'a tous remarqué, ces deux dernières années, il y a eu quand même une inflation très considérable. Mmh. Et ça, c'est très important pour l'impôt sur le revenu, parce que les tranches du barème progressif de l'impôt, eh bien, elles sont indexées sur cette inflation. Alors, pendant très longtemps, finalement, on l'avait un petit peu oublié, parce que comme il y avait très peu d'inflation, eh bien, le réajustement annuel, il était quand même relativement minime. Oui. Et là, depuis deux ans, eh bien, il y a vraiment des réajustements qui sont très importants. L'année dernière, c'était un réajustement de 5,4%. Cette année, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même très significatif, parce que c'est 4,8%.
C'est-à-dire que les tranches de barème ont été réévaluées.
Voilà, tout augmente. Donc, en fait, maintenant, pour rentrer dans l'impôt, pour un célibataire, si vous avez donc une seule part, vous êtes un célibataire, vous n'avez pas de personnes à charge, eh bien, pour avoir à payer des impôts, il faudra avoir accumulé au cours de l'année au moins un revenu net de 11 295 euros. Donc, ce qui fait qu'il y a finalement de plus en plus de personnes qui sont exclues de cet impôt sur le revenu. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou plutôt être dépité par cette nouvelle, mais il y a de moins en moins de personnes qui, finalement, sont concernées par l'impôt sur le revenu. Vous avez 22,5 millions de foyers fiscaux qui, finalement, sont exclus de l'impôt sur le revenu. L'année dernière, c'est ce qu'a provoqué le réajustement. Voilà.
Et donc, c'est ça que ça veut dire. 22 millions de Français ne payent pas d'impôt.
En fait, il y a pas d'impôt sur le revenu, et finalement que la masse des personnes qui, elles, payent l'impôt sur le revenu se rétrécit finalement d'année en année. L'année dernière, vous avez, je crois que c'est 2,6% de foyers en moins qui ont été donc soumis à cet impôt sur le revenu.
Ouais, difficile à lire à titre individuel, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Parfois,
ça dépend. En fait, si vous avez été augmenté à hauteur de cette inflation, finalement, le fait que les tranches sont réajustées, ça va être relativement neutre pour vous. En revanche, si vous n'avez pas été augmenté à hauteur de cette inflation, c'est quand même le cas de nombreux Français, eh bien, vous avez un petit lot de consolation, c'est que vous allez payer finalement moins d'impôts.
Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, chère Marie-Christine, c'est le seuil de patrimoine net qui vous assujettit à l'impôt. C'est 1,3 million.
Alors ça, vous parlez de l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on pourrait se dire, finalement, cette inflation, elle profite plutôt aux contribuables. Oui, pour ce qui concerne le réajustement des tranches du barème, mais vous avez toute une série d'impôts qui ne sont pas du tout concernés par ces mesures de réajustement. Vous avez certains seuils qui sont réajustés et d'autres qui ne bougent pas. C'est le cas notamment de l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière. Dès lors que votre patrimoine net net immobilier représente plus de 1,3 million d'euros, eh bien, vous êtes assujetti à l'IFI. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, si vous atteignez cette barre, c'est que le barème, lui, il commence à 800 000 euros. Donc, c'est ce que beaucoup d'assujettis ignorent. Ils se disent, ben voilà, j'ai juste...
En dessous d'un million trois.
En dessous d'un million trois, ça va. Mais à partir d'un million trois, on se dit, ben l'impôt va être extrêmement léger. Ben non, parce que vous avez une tranche qui est de 0,5%, qui est calculée déjà sur ce qui est entre 800 000 et 1 million 3. Donc, vous allez déjà commencer à payer un IFI relativement significatif, même si vous avez en plus un abattement quand même qui est prévu pour les gens qui sont juste à la frontière, qui dépassent juste un petit peu les 1,3 million, de façon à ce que il n'y ait pas un effet de seuil trop brutal pour ceux qui passent juste les 1,3 million du fait de ce barème qui commence en fait à 800 000. C'est un peu subtil.
Petite question, si on payait l'IFI l'année précédente et que là, on ne paye plus l'IFI, est-ce que vous savez si on doit quand même déclarer, faire sa déclaration d'IFI ? C'est une question de Vincent qui nous a écrit en amont de notre échange Marie-Christine. Il était assujetti ces dernières années à l'IFI. Il ne l'est plus techniquement depuis le 1er janvier 2024 parce qu'il a vendu des SCI, visiblement, en 2023. Il nous demande conseil. Est-ce qu'il faut quand même faire une déclaration à l'IFI ?
Normalement, vous n'avez plus de déclaration à faire. Ce qui est probable, c'est qu'il reçoive une demande d'explication de la part de l'administration fiscale. Et dès lors qu'il recevra une demande d'explication, il faudra juste qu'il réponde en disant « ben voilà, j'ai cédé telle et telle part de SCI pour tel montant, ce qui fait que je passe en deçà de la barre de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais effectivement, s'il est en deçà de 1,3 million, après, il peut effectivement, sur sa déclaration, faire une mention spécifique, puisque c'est déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu. Il peut se dire, il peut dire à l'administration fiscale, et cette année, je ne fais pas de déclaration d'impôt sur la fortune immobilière du fait de vente de parts de SCI. Peut-être que ça lui évitera d'avoir cette demande d'explication de la part de l'administration, qui peut s'étonner en fait, puisqu'elle a son fichier de personnes qui déclarent à l'IFI, que cette année il soit sorti de l'impôt sur la fortune immobilière.
Voilà Vincent, ceinture bretelle, rajoutez l'information, faites-en mention, comme ça vous êtes tranquille. Ça peut peut-être ultimement éviter un petit contrôle fiscal d'ailleurs.
Pas forcément un contrôle fiscal, mais juste une question de la part de l'administration qui, en faisant ses contrôles, non pas sur place, mais ses contrôles sur pièce, en screenant toutes les déclarations des contribuables, peut s'apercevoir que tel foyer fiscal qui était assujetti l'an passé ne l'est plus cette année.
Bon, on a parlé un petit peu d'IFI, on va revenir un petit peu sur l'impôt sur le revenu parce qu'il y a d'autres exemples qui montrent que finalement, avec l'inflation, tous les contribuables n'ont pas à y gagner.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de seuils qui sont réactualisés en fonction de l'inflation, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Alors, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, celui des niches fiscales qui sont plafonnées à 10 000 euros. Eh bien, ça reste 10 000 euros, il n'y a absolument aucune modification, bien qu'il y ait de l'inflation. Une autre niche fiscale qui concerne pas mal de contribuables, c'est celle des emplois à domicile. Oui. Donc vous avez droit à un abattement qui est de 50% de vos dépenses, dans la limite de 12 000 euros. Alors 12 000 euros avec quelques exceptions, parce que vous pouvez ajouter un petit peu en fonction de votre foyer fiscal, en fonction de chaque situation. Mais c'est ce seuil de 12 000 euros, lui non plus, il ne bouge pas. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que cette année, l'administration s'intéresse plus particulièrement à l'affectation de ses dépenses pour emploi à domicile. Et il faut d'ailleurs mentionner à quoi doivent être affectées ces dépenses. Par exemple, si vous avez des dépenses de petits travaux de jardinage, le plafond, c'est 5 000 euros. Si vous avez des dépenses pour des aides à l'informatique, c'est seulement 3 000 euros. Donc, il faut aussi spécifier ça. En tout cas, ça fait partie des seuils qui ne bougent absolument pas. Vous en avez d'autres aussi, par exemple, sur l'assurance vie. L'assurance vie, on le dit souvent à votre antenne, vous avez un régime fiscal qui est quand même assez agréable dès lors que vos contrats ont plus de 8 ans. Vous avez notamment droit à un abattement annuel sur le montant des intérêts perçus. Dès lors que vous faites des retraits sur votre contrat d'assurance vie, eh bien, si chaque année le montant des intérêts, de la part sur ce que vous retirez, si le montant des intérêts ne représente pas plus de 4 600 euros pour un célibataire, ça fait 9 200 euros pour un couple, et bien là, vous n'avez pas d'impôt à payer. Et bien, ces seuils-là, ils ne sont pas non plus réactualisés, ils ne sont pas non plus revus. Donc ça fait partie de tous ces seuils qui restent totalement figés et finalement ça aboutit à une hausse de la pression fiscale, une hausse qui est très discrète, mais qui n'en est pas moins réelle.
On le voit, hein, l'inflation qui n'est pas répercutée partout de la même manière. Est-ce que ce sujet d'inflation vous semble particulièrement au cœur ou dans la tête des gens qui déclarent leurs impôts cette année ?
Alors, je pense que c'est pas neutre, hein, forcément, puisque chacun a pu subir les effets de l'inflation. Mais justement, du fait de cette réévaluation des tranches, je pense que c'est quand même ce qui ressort le plus, qui est le plus ressenti par le contribuable. Donc il y a quand même cette réévaluation qui a un effet certain sur le montant de l'impôt.
Marie-Christine, vous suivez avec l'équipe patrimoine des Échos depuis longtemps les déclarations d'impôts. Est-ce que vous observez quand même que c'est plus simple en 2024 de déclarer ses impôts qu'avant ? Est-ce que la digitalisation du processus fait du bien ?
Alors, très certainement, pour ceux qui sont très à l'aise avec le digital, pour les autres, il y a quand même un certain nombre de personnes qui restent adeptes de la déclaration papier. Mais bon, c'est vrai que le digital permet quand même à un certain nombre de personnes vraiment de simplifier réellement cette corvée. Pour autant, il ne faut pas s'exonérer de faire les vérifications qui sont nécessaires, puisque, en plus, pour nous aider, l'administration fiscale pré-remplit énormément de cases de l'impôt sur le revenu, mais justement, le fait que ça soit pré-rempli, et j'attire l'attention des contribuables là-dessus, il faut quand même vérifier tout ça, regarder que ce sont bien les bons montants qui sont portés aux bons endroits, et puis ne pas oublier aussi ce qui peut aussi vous permettre de réduire un petit peu les impôts, par exemple de déclarer les enfants scolarisés, ça vous donne droit à une petite réduction d'impôts, ce sont des petites cases qu'on peut oublier, et c'est dommage parce que ça vous permet de réduire facilement le montant de votre impôt sur le revenu, vous y avez droit, donc faites attention à ces petites cases qui peuvent vous donner droit à un avantage fiscal.
Et attention à vos petites cases pré-remplies, vous l'avez entendu. Et oui, la digitalisation permet à certaines cases d'avoir déjà des informations, mais elles ne sont pas garanties justes. Et puis si l'information dedans est fausse, c'est votre responsabilité.
Oui, c'est votre responsabilité qui est engagée, absolument. Oui.
Il y a plein d'autres choses à préciser sur les nouveautés et les pièges à éviter de cette déclaration de revenus 2024. Je vais vous laisser faire votre travail, chers auditeurs, auditrices, peut-être en vous plongeant dans les échos au vendredi, puisque vous avez travaillé, vous et votre équipe, Marie-Christine, sur un dossier très complet. Il y a tout un pan aussi sur l'immobilier, les nouveautés qui concernent les propriétaires immobiliers. Vous devez être particulièrement attentif. Il y a pas mal de choses aussi qui concernent les revenus fonciers classiques qui ne changent pas, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Tous les détails à retrouver dans ce dossier spécial déclaration d'impôts 2024 dans les Échos patrimoine. Merci beaucoup Marie-Christine.
Merci à vous Laurent.
Si vous avez attrapé cette séquence en cours de route, elle est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. J'avais promis à Artoff qu'on répondrait à sa question. Il a ouvert un compte titre chez un broker en ligne au mois de janvier 2024. Il nous demande s'il faut le déclarer aux impôts dès cette année ou bien attendre l'année prochaine. Marie-Christine, au pied levé, est-ce que vous avez une réponse pour Artoff ?
De toute façon, ouvrir un compte-titre ne nécessite pas de déclaration. Il fera une déclaration donc l'année prochaine, puisque ça concernera ses revenus 2024, s'il a perçu des dividendes ou s'il a réalisé des plus-values.
Même si c'est un compte-titre à l'étranger ?
Ah, alors attention,
à l'étranger,
alors à l'étranger c'est totalement différent. Enfin là, en l'occurrence, ça concerne toute l'année 2023 et non 2024. Donc il faudra qu'il déclare l'année prochaine, qu'il n'oublie pas de cocher cette case lorsqu'il remplira sa déclaration de revenus.
Vous avez entendu, de toute façon, cher Artoff, que votre compte-titre soit logé en France ou chez un broker à l'étranger. Comme vous l'avez ouvert en janvier 2024, a priori, ça ne concernera que votre déclaration l'année prochaine. Donc pas de stress. Merci beaucoup, Marie-Christine, d'avoir répondu au pied levé et à nos auditeurs et auditrices. Vous continuez à nous écrire. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, vous m'écrivez en message privé, vous voyez, vos messages arrivent jusqu'à nous et nos expertes.